des chutes de neige par endroit. Les températures diurnes s'échelonneront de 0 à 4 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Notre magazine d'actualité tchèque nous amènera tout d'abord à la centrale de Temelín, en Bohême du Sud, qui rencontre certains problèmes. Ensuite, Alena Gebertova vous parlera des activités de Václav Havel en séjour aux États-Unis. Václav Richter vous présentera le nouveau palais de justice pragois. Nous vous parlerons d'un nouveau test d'admission à certaines facultés, mais aussi de la prochaine ouverture à Prague du Centre européen des technologies mobiles. Microsoft et Magdalena Rozinkova vous présentera les nouveaux uniformes qui devraient porter la garde du château de Prague. La réalisation technique de toute l'émission a été confiée à Irina Vernochova et avec elle, nous vous en souhaitons une parfaite réception. La centrale nucléaire de Temelín en Bohême du Sud, qui a été l'objet de fortes critiques lors de sa mise en service, en Tchéquie mais aussi surtout en Autriche, ne fonctionne pas à 100% depuis le mois de septembre. En effet, son second réacteur a subi le changement annuel de son combustible, mais avec ce dernier, justement, des problèmes sont apparus. Le porte-parole de la centrale, Milan Nebesage, affirme que les techniciens préparent le réacteur à sa remise en service, mais que la date n'a pas encore été fixée. Il ajoute que l'arrêt du réacteur, qui fournit 24 000 MWh quand il fonctionne à 100%, coûte très cher à la société Chez, le propriétaire de la centrale et le plus grand distributeur d'électricité en Tchéquie. Quels sont donc ces problèmes de combustible que rencontre la centrale de Temelín? Le combustible, dont le fournisseur est la société américaine Westinghouse, ne conserve pas ses paramètres originaux. Il présente des différences fonctionnelles en comparaison avec ce que les techniciens planifiaient. D'après les organisations écologiques, aussi bien tchèques qu'autrichiennes, la raison des problèmes de Temelín est la suivante. Les réacteurs sont des prototypes avec des turbines de 2000 MW qui n'ont pas été testées assez longtemps. Les écologistes argumentent avec l'autre centrale tchèque de Dukovany qui ne rencontre pas de tels problèmes. Il semble pourtant que ce serait plutôt le combustible qui serait en cause. En effet, la société Chez a décidé de ne pas renouveler son contrat de livraison de combustible avec Westinghouse qui arrive à terme en 2010. Elle préfère le combustible de la société russe Tvel, le fournisseur de la centrale de Dukovany justement. Problème certes, mais aucun danger de pollution radioactive, affirme la direction de Temelín, tout comme la directrice de l'Office national pour la sécurité nucléaire, Dana Drabova. C'est presque devenu une tradition. Lorsque Václav Havel veut récupérer un nouvel élan et se concentrer sur l'écriture, il choisit les États-Unis comme destination. Alena Gebertova.
New York et Washington, c'est dans ces deux villes que Václav Havel, accompagné de son épouse Dagmar, veut passer les 4 prochains mois. Un modèle qui reprend en quelque sorte celui auquel l'ex-président tchèque avait déjà eu recours au printemps de l'année écoulée. Et même s'il le veut surtout écrire, son programme intègre aussi tout un éventail de manifestations publiques, d'ordre culturel ou politique. Le débat avec Bill Clinton portant sur les défis des nouvelles démocraties, un débat entre deux anciens qui entretiennent des liens d'amitié se présente comme l'un des moments forts de cet agenda. Sont prévus également des débats avec les prix Nobel de littérature, le Turc Orhan Pamuk et le Nigérien Wole Soyinka. À noter en outre que Václav Havel fait partie des personnalités qui ont publié à New York un rapport commun dénonçant le non-respect des droits de l'homme en Corée du Nord. Cette fois-ci, c'est pourtant Václav Havel, dramaturge, qui veut se faire valoir plus que Václav Havel, homme politique. Selon ses déclarations, il aimerait se replonger dans l'écriture d'une pièce de théâtre, inspirée par le Roi Lear de Shakespeare, une pièce ayant pour protagoniste un politicien qui quitte le devant de la scène et qui s'achèverait par un happy end. « Je remercie la Columbia Université pour le calme qu'elle m'offre », a déclaré Havel à l'adresse de cette institution américaine qui l'accueille. De notre côté, il s'agit aussi de présenter Havel en tant qu'auteur dramatique au public américain. À cette fin, une rétrospective hors du commun de l'ensemble de son œuvre est présentée depuis la semaine dernière sur plusieurs scènes new-yorkaises. L'apparition d'un livre biographique, retraçant le parcours théâtral de Václav Havel complète ce panorama.
Un nouveau palais de justice a ouvert ses portes à Prague. Les bâtisseurs de cet ensemble d'institutions judiciaires, qui est le plus grand de République tchèque, désiraient donner à la justice pragoise la sécurité et le confort. Václav Richter.
C'était un grand déménagement pour les tribunaux et les parquets des 4e, 8e, 9e et 10e arrondissements de Prague qui vivotaient souvent dans des conditions précaires. Le juge Luboš Vlasák évoque cette situation qui est devenue intenable.
Je crois que c'est un pas dans la bonne direction, parce que certains tribunaux pragois se trouvaient dans des édifices incompatibles avec la dignité de la justice. Par exemple, dans la salle du tribunal du 2e arrondissement de Prague, on n'entendait pratiquement rien parce que l'édifice était situé au bord d'une voie express qui canalise le trafic du centre de la ville. La cour du 9e arrondissement, elle, ne disposait que d'une salle d'audience dont les dimensions ne dépassaient pas celles d'un simple bureau.
Le nouveau palais de justice qui se trouve dans le 10e arrondissement de Prague abrite 98 salles d'audience, 38 salles spéciales pour audition à huis clos, 564 bureaux, 30 cellules de détention, une salle de vente publique et une bibliothèque spécialisée. Tout cela sera abrité dans un nouvel édifice et trois bâtiments d'une caserne désaffectée du 19e siècle reconstruits de fond en comble. Les travaux ont commencé en 2003 et ont englouti 2 milliards et demi de couronnes, quelques 90 millions d'euros. Le budget prévu initialement a été dépassé de quelques 600 millions de couronnes, ce qui ne serait pas dû, selon le rapport de l'Office suprême de contrôle, au gaspillage au cours des travaux, mais au projet initial bâclé. Le palais a tout de même été conçu selon les critères modernes. Les espaces réservés aux employés et au public sont complètement séparés. Grâce à la disposition intérieure des édifices, les deux parties de la procédure judiciaire, les magistrats et le public, ne se rencontreront que dans la salle d'audience. Les édifices sont équipés aussi d'une technique spéciale pour les interrogatoires des témoins secrets. Seul le juge disposera donc de la possibilité de voir le témoin sur un petit écran, mais le témoin restera invisible pour les autres personnes présentes dans la salle. Sa voix sera rendue méconnaissable par des installations sophistiquées. Le nouveau palais de la justice sera profitable aussi pour les tribunaux pragois qui n'ont pas eu le privilège de s'installer sous son toit. Une partie de ces institutions pourra aménager dans les immeubles restés vacants après le départ des tribunaux et des parquets de 4 arrondissements pragois et de leur installation dans leur nouveau siège.
À la différence de la France où les examens d'entrée à l'université n'existent pas, la Tchéquie utilise encore cette pratique. Pourtant, les candidats aux études dans 9 facultés ne seront plus soumis à ces examens au printemps prochain. Environ 22 000 étudiants, en effet, qui se prépareront l'année prochaine à des études supérieures, par exemple aux facultés d'économie nationale de la Haute École économique à Prague, de philosophie à Olomouc ou de pédagogie à Plzeň, soit un candidat sur 5, vivront une petite révolution. Plus d'examen d'admission, mais un test comparatif national. La différence, au lieu de démontrer leurs connaissances presque encyclopédiques, les étudiants devront faire preuve de logique. Le test national comparatif sera destiné à déterminer si le candidat dispose des aptitudes nécessaires aux études supérieures. Par exemple, il devra prouver qu'il comprend un texte et est capable de travailler avec. Pour Jana Tsofalova, vice-doyenne de la faculté pédagogique de Plzeň, la principale nouveauté est qu'on ne recherchera plus à tester la connaissance momentanée d'un fait donné. 15 autres facultés, pour la plupart d'orientation technique, pensent suivre de près l'organisation du test national comparatif. L'année prochaine, 45 facultés devraient adopter ce mode d'admission, ce qui représente 20% de tous les établissements d'études supérieures en Tchéquie. Le test national comparatif est déjà à la disposition des intéressés, mais reste payant, comme le sont les examens d'admission aux écoles supérieures. D'après Yiji Steffel de la société CIO qui a développé le test, il est difficile de tricher. Les exemplaires sont sous-scellés jusqu'à leur distribution en classe. La possibilité de copier sur le voisin est aussi minime, car il existe plusieurs variantes et deux personnes effectuent la surveillance dans la classe. Pour les facultés, cela veut dire qu'elles ne seront plus obligées de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à l'élaboration des examens. Le ministère de l'Éducation ne voit aucun problème à l'introduction du test national comparatif, car chaque faculté est libre de choisir le mode d'admission de ses étudiants. Pourtant, certains établissements, comme la faculté de médecine de l'Université Charles de Prague, continueront la pratique des examens d'admission classiques. La garde du château de Prague, responsable de la sécurité du siège officiel du président de la République, changera cette tenue qu'elle porte depuis 16 ans. Si la nouvelle est classée plutôt au rang des curiosités, un autre changement signalé par la chancellerie concerne directement les touristes. À partir du 1er janvier 2007, de nouveaux itinéraires de visite y seront mis en place. Un sujet traité par Magdalena Rosinkova et présenté par Alena Gebertova.
Cela demeure un des symboles de la présidente de Václav Havel, alors que son ami architecte Borek Šípek a marqué de son empreinte les locaux du château de Prague, le plasticien Theodor Pištěk, lui, a dessiné en 1990 les nouveaux uniformes de la garde présidentielle. Depuis, tous les jours à midi, les soldats de la garde paradent dans les cours du château, habillés en uniforme bleu clair, garni de boutons dorés et d'un cordon tressé tricolore bleu-blanc-rouge. Or, ces créations du fameux costumier des films de Miloš Forman, inspirées d'après leur auteur des uniformes des légionnaires tchécoslovaques de la Première Guerre mondiale, ont suscité et suscitent encore une vive polémique. Les critiques les plus farouches émanent des organisations des anciens combattants, classées par les vétérans costumes de cirque ou d'opérette et vues d'un mauvais œil par le chef de l'État Václav Klaus, patron des lieux depuis 2003. Ces uniformes de la garde du château devraient être bientôt placés derrière les vitrines des musées. Ceux qui les remplaceront seront verts, foncés, avec des ornements rouges et dorés. Ils feront allusion, cette fois-ci, aux forces militaires de la Première République tchécoslovaque, et ce bien que l'uniforme vert rappelle également aux Tchèques la police communiste. D'après l'office militaire du chef de l'État, l'introduction des nouvelles tenues de la garde se fera progressivement, et ne débutera pas dans un proche avenir. Le projet n'en est qu'à son début. Par contre, la modification des itinéraires touristiques dans l'enceinte du château de Prague est, elle, annoncée pour le début de l'année prochaine. Avec l'intention de simplifier le système actuel, la chancellerie a décidé de mettre en place deux itinéraires principaux de visite à la place des 7 parcours actuels. Le nombre de monuments accessibles sera conservé, tout comme le prix maximum du billet d'entrée, 350 couronnes, environ 12 euros. Notons bien que les entrées à la galerie du château et à l'exposition permanente relative à son histoire seront payables séparément. Il en va de même pour la cathédrale Saint-Guy, devenue récemment propriété de l'Église catholique. Sa visite coûte plus de 3 euros.
D'ici à la fin de cette année, le géant américain du logiciel Microsoft devrait ouvrir son centre européen des technologies mobiles. C'est la capitale tchèque, Prague, qui a été choisie pour devenir le siège du centre, alors que les capitales d'autres pays d'Europe occidentale et orientale étaient en lice. Pourquoi ouvrir ce centre des technologies mobiles? Réponse de Michal Čupa, directeur de Microsoft en République tchèque.
C'est une réaction au fait que les technologies mobiles prennent de plus en plus d'importance dans le monde. Pourtant, les technologies mobiles ne sont souvent utilisées que pour la communication vocale ou l'envoi de SMS. Microsoft possède le potentiel et les possibilités de faire encore avancer les technologies mobiles, d'en faire un véritable instrument pour l'augmentation de la productivité du travail.
Technologii posunout o trochu dál a udělat z ní skutečný nástroj na růst produktivity práce.
La technologie mobile de Microsoft, c'est Windows Mobile, avec 6% du marché mondial actuellement et 3,5 millions de clients. Le reste est détenu par son concurrent dans ce domaine, la société Symbian. Selon les experts, cependant, en 2010, Microsoft devrait avoir 44 millions de clients. Le centre pragois devrait employer une vingtaine de spécialistes cette année encore. Et on embauchera plusieurs dizaines d'autres, aussi bien tchèques qu'étrangers, l'année prochaine. Il devrait aussi servir de référence pour la création de centres du même genre sur les autres continents. Nous avons eu le plaisir de vous présenter Faits et événements. Voici maintenant la suite du programme en langue française de Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Il y a de cela 65 ans, en octobre 1941, partaient de Prague et de Brno les premiers trains transportant les Juifs de Bohême et de Moravie dans des camps d'extermination. Des 84 000 Juifs déportés, seuls 10 500 reviendront. Les derniers rescapés de la Shoah, qui sont encore parmi nous, ont fondé en avril 2006 le groupe historique appelé les camps d'extermination. Son objectif est de réunir les signatures et les témoignages sur l'existence des chambres à gaz pour faire face au mouvement de négationnisme qui les nie, ainsi que le génocide de 6 millions de Juifs. Eva Mazurkova, qui est membre de ce groupe, et le professeur Jiří Franěk de l'Association des prisonniers politiques libérés ont présenté lundi leur initiative aux médias. Arrêtez tant qu'il est encore le temps, un nouvel holocauste qui ne menace pas que les Juifs, mais nous tous. Voilà la première phrase de l'appel publié par l'Association des prisonniers politiques libérés. Il y est dit que ceux qui parlent aujourd'hui à voix haute et de plus en plus souvent de l'holocauste sont ceux qui le nient. Et les rescapés de la Shoah qui étaient emprisonnés à proximité immédiate des chambres à gaz ont décidé de lever leur voix. Depuis le mois d'avril dernier, qui a vu la naissance du groupe Les Camps d'Extermination, 40 témoignages sur l'existence des chambres à gaz ont été réunis. Ils sont signés par d'anciens prisonniers d'Auschwitz, notamment du camp B2B, de celui qu'on appelait camp familial, et des camps hongrois, tziganes pour hommes et pour femmes. 32 témoignages viennent de République tchèque, 8 autres d'Australie, du Brésil, d'Hollande, d'Israël, du Canada et des États-Unis. Parmi les signataires, il y a Emma Sternova, auteur d'un livre de souvenirs « Et Dieu se taisait », paru en 2003 et préfacé par Arnaud Stlustik. Eva Mazurkova du groupe historique évoque des destins qui se cachent derrière les signatures.
Valérie Slezáková, narozená v roce 23.
Valérie Slezáková, née en 1923, nous a décrit son travail à Birkenau 1 dans le service dit politique qui consistait dans l'enregistrement des trains amenant les prisonniers. Son bureau se trouvait juste à côté de la rampe sur laquelle les déportés arrivaient. Elle voyait les foules défiler direction le four crématoire. À Birkenau B2B, elle assistait au tatouage des déportés. En janvier 1966, elle a déposé au procès de Francfort contre Herbert Schusteck des Sudètes condamnés à perpétuité pour avoir tué sur ordre de Mengele ses victimes par injection de phénol. Adolfina Sovova, née en 1918, a été déportée comme prisonnière politique à Auschwitz. Elle était l'un des jumeaux sélectionnés comme cobayes pour les expériences du docteur Mengele.
Le groupe historique Les Camps d'Extermination est aussi entré en correspondance avec Michael Honey d'Israël. Son histoire est celle d'un ancien Birkenau Boys, comme on appelait les garçons juifs de 13 ans passés par la sélection d'Auschwitz. Il n'a pas joint sa signature car il n'est pas d'accord avec le nom de l'Association des prisonniers politiques libérés, estimant que les Juifs n'étaient pas des prisonniers politiques et que 61 ans après, de nouveaux témoignages sur les chambres à gaz sont inutiles. Le professeur Jiří Franěk, qui dirige l'Association des prisonniers politiques libérés, n'est pas de cet avis. Il dit que l'Holocauste est une nouvelle nécessité pour le néonazisme. Si les négationnistes disent que l'Holocauste n'a pas existé, les néonazieux souhaitent le répéter. L'anéantissement de 6 millions de Juifs ne présentant à leurs yeux aucun problème. Selon cet historien et politologue, la situation aujourd'hui face à la montée du néonazisme et du négationnisme ressemble à celle d'avant-guerre, sauf que...
Já se bojím, že dnes je situace hodně podobná, že...
Je crains que ce soit Israël qui joue le rôle que la Tchécoslovaquie occupait dans les plans d'Hitler. Après la nuit de cristal, le 9 novembre 1938, qui a été le premier vaste pogrom contre les Juifs en Allemagne, La vague de terreur qui a suivi s'est déroulée dans l'ordre suivant. Juifs, Tziganes, Tchèques et Moraves. Plus tard, Hitler a échangé les Tchèques contre les Polonais.
D'après Jiří Franěk, la devise des négationnistes est d'éradiquer le moindre souvenir de l'Holocauste. Il y a David Irving et ses ouvrages, il y a Ernest Zundel, il y a, comme il le souligne, une liaison de plus en plus étroite entre les négationnistes européens et les radicaux islamistes. Eva Mazurková le complète.
Américaine historique Deborah Lipstadtová, sice...
L'historienne américaine Deborah Lipstadt, auteure du livre « Le négationnisme de la Shoah », a dit que ceux qui nient l'Holocauste ne sont pas dangereux tant que les rescapés sont en vie. Quoique nous estimions cette historienne connue pour sa résistance opposée lors du procès d'Irving, nous nous sentons obligés de lutter contre ces mouvements et de prévenir la violence.
Les originaux des témoignages et des signatures sont disponibles à l'adresse du siège de l'Association des prisonniers politiques libérés, rue Sudomirska à Prague. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'être resté avec nous et à très bientôt sur les ondes de Radio Prague. Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz.
Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 430 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 1130 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 2230 and 2330 hours on 5930 kHz, also at 2330 hours on 7345 kHz, and at 1, 2, and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours on 15710 kHz and at 14 hours UTC on 11600 kHz. Listeners in Asia and Australia can tune in at 18 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern East Asia and Australia can tune in at 21 hours on 9430 kHz. And finally, listeners in Southwest Asia can hear us at 430 UTC on 9890 kHz. Don't forget, Radio Prague also broadcasts via satellite and on the internet. For more details, see our website at www.radio.cz/English. Radio Prague News.
President Václav Klaus continues talks with party leaders. Miloš Zeman, the former chairman of the Social Democrats and ex-prime minister, expresses support for Zdeněk Škromach's ability to lead the party. And the government has approved a plan to relocate 170 ethnic Czechs from Kazakhstan back to the Czech Republic. As part of a round of new meetings with political party leaders, President Václav Klaus has met with Christian Democratic leader Jan Kasal. The two men met at Prague Castle on Wednesday morning to discuss possibilities of forming a new government. Mr. Kasal told the press that the Christian Democrats are in favor of an agreement that would include the Social Democrats, because this is the only way to avoid depending on the support of the communist MPs in the lower house. The Christian Democrats are in favor of what they are calling a rainbow cabinet that would join the Civic Democrats and the Social Democrats, with the Christian Democrats playing a key mediating role between the two largest parties. Early Wednesday afternoon, Mr. Klaus also met with Acting Prime Minister Mirek Topolánek. Mr. Topolánek says that the two men did not discuss who the president will charge with the second attempt to form a viable government. Mr. Topolánek's aim is to find an agreement between parties that would lead the country to early elections. Former Social Democratic Chairman and Prime Minister Miloš Zeman thinks that current Deputy Chairman of the Social Democrats, Zdeněk Škromach, would make a fine party leader. Mr. Zeman disclosed his opinion in an interview for Wednesday's edition of the Daily Pravo. The former party leader also confirmed that he will not attend the Social Democratic Convention, at which delegates will elect a new leader.